Le podcast Relais Santé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Le podcast Relais Santé. Je m'appelle Robin Vigneron et je suis étudiant ingénieur à l'Université Technologique de Compiègne. Donc les étudiants Relais Santé, on est une équipe d'étudiants et étudiantes au service de la région et notre rôle est de sensibiliser et effectuer des actions de prévention sur différentes thématiques autour de la santé et du bien-être. Pour notre deuxième podcast, nous avons le plaisir d'accueillir à nouvelle fois Madame Domitille Gossard, sage-femme libérale. Et aujourd'hui, on va discuter des mythes autour de la contraception. Donc, le premier questionnement auquel qu'on va aborder, donc c'est le DIU. Déjà, on va préciser ce que c'est. Donc, l'un des mythes, c'est est-ce que c'est un moyen de contraception interdit pour les nullipares ? Et la pose est-elle douloureuse ?
Bonjour. Je pense que c'est une question qui est vraiment très très intéressante et tout à fait à l'ordre du jour. Savez-vous que c'est la contraception que j'utilise le plus souvent ?
Je ne savais pas.
Et que je propose le plus souvent aux nullipares dans des contextes bien précis. C'est une contraception, il faut le savoir, le dispositif intra-utérin qu'on appelait avant stérilé, on ne l'appelle plus stérilé parce que dans le mot stérilé, il y a une connotation négative de stérile.
Stérile, les gens pensent qu'on est stérile.
Voilà, et qu'après on risque d'être stérile. Donc on a banni ce terme et maintenant on parle de DIU, dispositif intra-utérin, et il est largement utilisé de par le monde. Les pays du Nord, en Norvège par exemple, c'est 99% des contraceptions, de la contraception utilisée chez toutes les femmes, et il est tout à fait possible de l'utiliser chez la nullipare. En fait, c'était un préjugé qu'on a eu quand ce dispositif a été mis en place. Mais vous savez que ça existe depuis la nuit des temps. On retrouve, quand vous allez à Venise, dans ce musée sur la santé, vous retrouvez des petits cailloux qui étaient utilisés comme stérilés. On utilisait plein de moyens très différents, déjà depuis très longtemps, pour éviter les grossesses chez la femme. Ce qui est intéressant chez la nullipare, c'est qu'il faudra avant tout quand même procéder à un examen gynécologique qui est de mettre un spéculum, c'est une espèce d'un petit bec de canard qui va visualiser en direct le col pour voir si le col n'est pas trop petit. Il y a parfois ce qu'on appelle des pertuis, des cols tellement fermés que c'est compliqué de passer un dispositif intra-utérin. Il faut qu'on voit l'aspect aussi des leucorrhées, des glaires vaginales, si elles sont de bon aspect, si elles ne sont pas malodorantes. Et puis, il faudra aussi procéder avant la pose à un prélèvement vaginal pour rechercher une maladie sexuellement transmissible comme les chlamydiés, les gonocoques, qui pourraient en fait la pose du stérilet pourrait potentialiser les risques de CMST en place.
On peut peut-être préciser ce que c'est qu'une femme nullipare ?
Alors une nullipare, c'est une jeune femme qui n'a jamais eu d'enfant. Voilà. M'arrive de poser des dispositifs intra-utérins chez des jeunes filles de 15 ans ou de 16 ans parce que, elles ont déjà essayé plusieurs contraceptions, parce que les contraceptions ne leur vont pas, parce qu'elles font des oublis de pilules, parce qu'il y a eu malheureusement des interruptions de grossesse à cause d'une pilule non suivie. Ça peut être vraiment une méthode relais qui est salué par beaucoup.
D'accord. Et est-ce qu'il y a différents types de DIU ?
Alors oui, il y en a trois qui sont en fait deux avec de la progestérone et un en cuivre. Alors, le dispositif intra-utérin, il y en a un qu'on appelle le Mirena. Il est un petit peu plus dosé en progestérone, c'est du lévonorgestrel. Il est dosé à 52 mg. Et celui-là, il a une indication thérapeutique. chez les femmes qui ont de l'endométriose. L'endométriose, certaines femmes, et on va en parler de plus en plus, sont les femmes qui souffrent en fait d'un développement anormal de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Alors ça peut être dans les trompes, ça peut être dans l'abdomen, ça peut être aussi dans les poumons, ça, que sais-je, et qui, au moment des règles, ont des douleurs vraiment terribles. Et en fait, le dispositif intra-utérin Mirena va empêcher les règles. Ça peut être aussi pour des femmes qui ont des règles hyper-hémorragique. Et donc ce Mirena, il est donc plutôt utilisé à une fin véritablement thérapeutique. Et il y a le Kylina. Le Kylina, il est un tout petit peu plus petit, et celui-là pour la nullipare, hein, il est très bien. D'abord, il est moins dosé. Et il est très bien, très très bien toléré par la plupart de mes patientes. Les indications sont les mêmes. Endométriose avec douleur de règles, on appelle ça des dysménorrhées, ou bien des hémorragies ou des métroragies. Les métroragies sont des règles très 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 abondantes, et donc il est utilisé dans ces cas-là, et il est très intéressant. Il est aussi utilisé chez les femmes qui font du sport et qui ont besoin de ne pas avoir de règles du tout. Il est utilisé aussi comme tous les trois dispositifs utérin chez les femmes qui ont malheureusement tendance à oublier la pilule. Le mode d'action, en fait, c'est important que vous le connaissiez. Hein. Il provoque une atrophie de l'endomètre. Donc l'endomètre va diminuer en épaisseur pour ne pas recevoir d'œufs fécondés. Mais il va aussi provoquer une réaction inflammatoire locale, ça reste stérile, pour encore une fois ne pas recevoir un œuf. Mais surtout, il va augmenter l'épaisseur de la glaire cervicale. Et en augmentant l'épaisseur de la glaire cervicale, ça va carrément bloquer l'accès des spermatozoïdes dans l'utérus. Donc en bloquant l'accès des spermatozoïdes dans l'utérus, il risquera pas d'y avoir fécondation un jour d'ovulation.
Donc la glaire cervicale, c'est ce qui est positionné à l'entrée de l'utérus, c'est ça ?
Alors, au niveau du col, le col, en fait, sécrète des glaires, et des glaires qui sont très variables, et ça, c'est vraiment important. Si toutes les jeunes femmes pouvaient apprendre à connaître leur glaire cervicale au moment de l'ovulation, par exemple, quand on n'a pas de contraception, on a des glaires abondantes, fluides, translucides, étirables. Et ça permet de connaître son corps, ça permet de savoir quand on est fertile. Et puis, il faut savoir aussi que cette glaire cervicale, elle est aussi sécrétée, ainsi que par les parois du vagin, lors du rapport, grâce au désir. Et puis, la dernière action, le dernier mode d'action de ces dispositifs intra-utérins, c'est 15 à 20% de blocage d'ovulation. Donc c'est vraiment une contraception qui est très complémentaire.
Et du coup, je voulais revenir aussi sur les méthodes hormonales, notamment à propos des DIE hormonaux. Est-ce que c'est des... Pour vous, il y a un mythe qui dit que c'est des dispositifs... Enfin, que les méthodes hormonales sont mauvaises. Il faut plutôt utiliser des méthodes naturelles. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
Alors, on va pas diaboliser les méthodes hormonales, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est content de les trouver. Et si vous me permettez de me donner quelques instants après pour vous parler même des pilules œstroprogestatives, grâce à ces méthodes hormonales, grâce à cette progestérone contenue dans les dispositifs intra-utérins, il y a, avec le Mirena, quasiment plus du tout de règles. Avec le Kylina, presque plus de règles, juste à peine, et les patientes souffrant d'endométriose ou de règles très abondantes, de métroragie, vraiment sont ravies de trouver ces contraceptions-là. Et c'est une contraception. Il faut savoir aussi que, par exemple, dans le Kylina, la quantité hormonale, c'est pas de l'œstrogène. C'est de la progestérone, c'est l'équivalent à une pilule par mois. Donc c'est vraiment mineur. Sinon, il y a les dispositifs intra-utérins au cuivre. Si vous voulez une contraception qui soit naturelle, le cuivre a plusieurs effets. En fait, Il faut savoir aussi que le dispositif intra-utérin au cuivre peut être utilisé en contraception d'urgence. Par exemple, préservatif qui explose. Par exemple, oubli d'une pilule. Eh bien, on peut poser ce dispositif intra-utérin dans les heures, très rapidement, dans les heures qui suivent, car il va y avoir un effet spermicide. Le cuivre a un effet spermicide. Et en fait, la progression des spermatozoïdes dans les trompes ne se fait pas immédiatement, tout de suite, elle prend un certain temps, plusieurs heures. Donc on peut déjà avoir l'espérance que ça va avoir un effet spermicide. Le cuivre est toxique pour les spermatozoïdes, mais aussi pour les ovocytes. Et en fait, il diminue la mobilité des spermatozoïdes, ce cuivre, et il diminue ce qu'on appelle leur capacitation. Leur capacitation, c'est leur pouvoir fécondant. Et puis, ce cuivre a une réaction inflammatoire locale, aseptique, comme pour le Mirena, même un petit peu plus encore que le Mirena. Ça, c'est une méthode qui est complètement naturelle, qui a énormément d'avantages. C'est celle que je prescris quasiment le plus, avec l'accord de la patiente, bien sûr. Hein, et moi, je les laisse réfléchir et après, elles reviennent vers moi en me disant « oui, ça m'intéresse » ou « non, ça ne m'intéresse pas ». Certaines femmes ont peur d'un corps étranger. Et je leur dis « bon, et quand on est face à des situations où on ne peut pas avoir de contraception hormonale par rapport à des problèmes de cholestérol, de dyslipidémie, d'antécédents, de phlébite, etc. Eh bien, si on a ça comme seule contraception possible, je leur dis « écoutez, ce que je vous propose, et si on essayait ?» À tout moment, lors de la pause, si ça vous fait peur, à tout moment, vous pouvez me demander d'arrêter, j'arrêterai et je ne le poserai pas.
Et justement, est-ce que ces dispositifs de DIU, ça fait mal à la pause ou pas ?
Ça, en fait, il y a plusieurs... Moi, ce que je fais déjà, c'est beaucoup mieux de poser un dispositif intra-utérin quand on a ses règles. Parce que quand on a ses règles, on a des douleurs de règles. On a les femmes, bien souvent, des douleurs de règles. Pourquoi ? Parce que l'utérus se contracte. Il se contracte pour ouvrir le col. Pour rouvrir le col, pour permettre un meilleur écoulement du sang des règles. Donc ça, c'est un super bon point. Et vraiment, chez la nuligeste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de venir poser un dispositif intra-utérin quand on a ses règles. Moi, je demande à mes patientes, le premier jour de vos règles, vous passez un coup de fil à mon secrétariat ou vous allez sur Doctolib pour voir si j'ai de la place. Si j'ai pas de place, vous appelez mes secrétaires, elles vont m'envoyer un message et je vais vous passer entre deux patientes pour vous poser ce dispositif intra-utérin ce jour-là parce que les 2, 3, 4 premiers jours de règles, c'est vraiment les plus opportuns. En plus, je leur donne un petit peu d'homéopathie, gel sémium et Actea racemosa qui les détendent et qui détendent le col. Donc ça, ça favorise aussi. Et le Nect plus Ultra, c'est un petit suppôt de par voie anale, de Nifluril, qui a un effet décongestionnant et du coup, ça fait des pauses qui se passent vraiment très bien. Et puis, j'utilise aussi cet atout que j'ai depuis quelques années, qui est l'hypnose. Je fais de l'hypnose conversationnelle. Et ça, j'ai des résultats extraordinaires. C'est-à-dire que, pour finir, la patiente est là et on discute et elle me dit « Ah, j'ai mes examens dans 2 jours et mes vacances après. Ah oui, et les vacances, vous allez faire quoi ?» etc. Et puis, l'action se déroule et puis on est focalisé tranquillement, gentiment sur autre chose. Ou bien si la patiente me dit « Bah écoutez, vous savez, moi je suis la reine des pétochardes. » Je réponds « J'adore les reines des pétochardes, parce que c'est avec elles qu'on fait le meilleur boulot. » Et une conversation s'enclenche et une pause de dispositif intra-utérin, mais 2 minutes grand maximum, c'est pas plus que ça.
C'est comme quand on est petit, on veut se faire piquer, on a mal au bras, on a peur, et le médecin nous parle, et au final, sans qu'on le voie, il nous pique.
Voilà. C'est le principe. Et puis mon désir aussi, c'est que mes patientes aient plaisir à revenir me voir. Donc croyez-moi, et mes collègues aussi, j'en suis persuadée. Je mets tout mon service possible à ce que la pause se passe le mieux possible.
Je pense qu'on ça clôture bien là, cette section à propos des dispositifs intra-utérins. On a trouvé un autre mythe qui est que les femmes qui prennent la pilule depuis longtemps doivent cesser son utilisation et prendre une pause de temps à autre. Qu'est-ce que vous en pensez quoi ?
Eh bien, en fait, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, si vous prenez la pilule, n'arrêtez pas. n'arrêtez pas. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a des risques cardiovasculaires qui sont multipliés par 4 la première année. Et je tiens vraiment à informer toutes les femmes, et c'est quelque chose qui fait partie de ce que j'explique pendant la consultation, c'est que les œstroprogestatifs, les pilules courantes, avec à base d'œstrogène, parce que c'est l'œstrogène qui crée le problème, eh bien, ont des risques, provoquent des risques cardiovasculaires, même à 15 ans, même à 16 ans, c'est-à-dire des risques d'infarctus du myocarde. Même si on a 20 ans, 18 ans, ce n'est pas un problème, on peut en avoir un. Risque de phlébite. C'est un caillot qui est au niveau des membres inférieurs, des vaisseaux des membres inférieurs, qui peut remonter et, au niveau des poumons, voire remonter ensuite au niveau du cerveau. Donc, phlébite, contre-indication. Antécédent chez la patiente de phlébite, contre-indication. Infarctus, contre-indication. Antécédent d'accident vasculaire cérébral, contre-indication. Mais même sans avoir tous ces antécédents-là, il va falloir, et ça c'est obligatoire, et s'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames, faites très attention quand on vous prescrit une pilule, on va vous prescrire, dans les 4 mois qui vont suivre cette prescription, une ordonnance pour faire un bilan lipidique et glucidique. C'est-à-dire qu'on va revoir, on va regarder si, au bout de 4 mois de prise, eh bien, la glycémie est toujours la même, parce qu'il y a des modifications du métabolisme des glucides avec une résistance à l'insuline créée par ces pilules, parce qu'il y a des modifications des constantes sanguines avec des actions sur le foie dues à la pilule. Donc, il est important, au bout de 4 mois de prise de ces pilules, de faire ce bilan pour voir comment votre organisme a réagi. Si les constantes sont parfaites, eh bien très bien, on peut continuer. Si des constantes ne sont pas bonnes, on ne devra pas continuer avec une pilule œstroprogestative. Il faudra prendre une pilule progestative pure. Et en fait, après, les risques sont multipliés par 4 la première année. Donc, pas question de se dire au bout de 6 mois, ah ben j'ai mon copain, il part en stage pendant 3 mois en Australie, super, ben moi je vais pas prendre de pilule histoire de me faire une petite fenêtre thérapeutique. Non, 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 parce que en recommençant 3 mois après, on réaugmente les risques cardiovasculaires. Et je voudrais aussi insister sur le fait que si vous devez prendre l'avion pendant plus de 4 heures. Toutes les femmes qui prennent la pilule avec des œstrogènes, des œstroprogestatifs, doivent faire attention et devraient mettre systématiquement des bas de contention, consulter éventuellement leur médecin traitant et prendre éventuellement aussi de l'aspirine à cause de tous ces risques thromboemboliques générés par des trajets en avion de plus de 4 heures, des trajets pour aller 12 heures au moins, ça a un impact sur le corps. C'est pas sans risque.
C'est des risques pas connus du public, du grand public en tout cas. Et donc, pour conclure ce podcast, on va aborder un dernier thème qui est les préservatifs internes et les préservatifs externes. Donc, beaucoup disent que les préservatifs internes sont moins pratiques que les préservatifs externes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Et d'ailleurs, préciser ce que c'est un préservatif interne et externe.
Alors, les préservatifs externes sont les préservatifs masculins et les préservatifs internes sont les préservatifs féminins ou bien qui peuvent être utilisés aussi par les homosexuels pour les relations par voie anale. L'avantage du préservatif interne, c'est que certains hommes rechignent un petit peu parfois à utiliser des préservatifs, disent « ben moi j'ai moins de sensations, etc. » Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait des MST ? Et c'est bien que vous me posiez cette question en fin d'émission, parce qu'il faut aussi qu'on insiste, c'est bien beau la contraception, mais les MST, il y en a aussi énormément. Et en fait, il faut qu'on sensibilise aussi toute la population, hein, même les vieux, comme vous dites, de 50-60 ans, qui ont des rapports avec des nouvelles rencontres, font plus très attention. Et en fait, il y a une recrudescence de sida, mais il y a aussi des pathologies comme les chlamydiés, qui est une MST qui est en grande expansion en France. Ça sent pas mauvais. Ça pique pas, ça gratte pas, ça crée pas des écoulements anormaux, mais ça rend stérile. Et en fait, il est vraiment très important que tous les jeunes se protègent, que ce soit avec un préservatif masculin ou un préservatif féminin, un préservatif interne, ou les homosexuels aussi, ou non, pour tous les rapports anaux, pour éviter d'être contaminés par ces maladies sexuellement transmissibles. Alors, en fait, on va parler en indice de Perle. L'indice de Perle, c'est le pourcentage de grossesses non désirées pour 100 femmes. L'indice de Perle pour les préservatifs féminins est pas terrible. En fait, il y a 16 à 32% de grossesses non désirées. Si vous voulez, par rapport à tout ce qu'on vient de citer, eh bien, le meilleur, le numéro un, c'est le dispositif à la progestérone, Mirena ou Kilina. On n'a pas parlé des implants sous-cutanés, mais les implants sous-cutanés... Il y a parfois des effets secondaires. Ça peut être très très bien toléré, ça peut être vraiment parfait pour certaines femmes, mais il peut y avoir des effets secondaires. Ensuite, le numéro 2, c'est le dispositif au cuivre, qui est complètement naturel, qui est aussi au niveau de l'indice de Perle, qui a aussi un résultat qui est vraiment excellent. Ensuite, il y a les pilules. Alors, les contraceptions œstroprogestatives ou bien les progestatifs purs. L'indice de Perle est un petit peu moins bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des oublis. Un petit rappel que je dis à toutes mes patientes. Mesdames, je vois que vous mettez votre appel sur le téléphone et c'est vraiment très très bien. Bravo. Mais s'il vous plaît, 50% des oublis de pilules sont dus au fait que la jeune femme a appuyé sur son rappel pour l'éteindre en disant « oui, oui, je vais la prendre » et entre-temps, elle a été appelée à droite ou à gauche et elle a oublié de le faire. Donc ne raccrochez pas. N'annulez pas cette alarme tant que vous n'avez pas avalé cette pilule. Ensuite, il y a les préservatifs masculins qui ont un indice de Perle à 15, qui est quand même assez élevé, et les préservatifs féminins 16 à 32, c'est quand même relativement élevé aussi.
D'accord, merci. Et du coup, dans ce podcast, on a parlé de plein de contraceptions, mais moi, je voulais rajouter un petit mot de la fin, à savoir que la contraception parfaite, sans contrainte, qui peut être prise par tout le monde, sans exception, n'existe pas. Et que la contraception, c'est un choix personnel qu'on peut faire en fonction de ses attentes et de ses habitudes de vie, de ses contraintes, et qu'il faut, bien sûr, ne pas avoir de pression et la prendre si on le souhaite ou non. Donc, merci beaucoup, Madame Gossard, pour ce deuxième podcast et d'avoir fait encore l'honneur d'être parmi nous. Et nous espérons vous entendre à nouveau dans un prochain podcast, qui sait.
Merci, c'est vraiment un plaisir. Merci pour cette très belle initiative.